Bonjour à chacun, chacune. Soyez les bienvenus. Sentez-vous ici chez vous, accueillis par Dieu. Le chemin, le voyez-vous? Il est là, devant nous, et va jusqu'à l'horizon. Parfois, il est caché par la forêt, une colline. Mais je sais qu'il continue, et j'avance. J'ai choisi de marcher avec des amis sur les pas des Huguenots. Samedi dernier, nous arrivions à la cathédrale, moment d'intense émotion, fin d'une belle histoire. Mais aussi, que de questions. Quand je pense à tous ces gens qui sont partis, qui ont tout quitté, comment faisaient-ils pour parcourir des longues distances? Qu'emportaient-ils? Comment se nourrissaient-ils? Ils quittaient une famille. Mais la revoyait-il? Comment ne se perdait-il pas? Je suis en admiration devant tant de courage, de persévérance, de confiance, de foi. Seigneur, nous nous remettons à toi pour entrer dans ce moment de recueillement avec confiance et reconnaissance. Que le message qui va nous être transmis nous guide dans notre réflexion et nous raffermisse dans notre foi.
Quand nous entendons la manière dont nos ancêtres ont suivi Jésus, ont suivi le Christ, et comme ça on continue de le suivre, on continue de le célébrer, C'est un miracle et c'est une manière particulière de suivre un leader. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Claude, et je crois que personne n'a pu passer à côté cette semaine de ce genre de choses. Et puis, notamment, ces images qui ont fait suite, hein, dimanche soir, lundi soir, pardon, je sais pas, oui, de toute façon, c'était sur toutes les pages à peu près du journal. La fierté de nos amis français face à des champions du monde qui se rassemblent en foule pour voir, pour toucher, pour avoir un autographe, pour faire un selfie d'eux-mêmes avec ces stars du ballon. Ça, c'est une manière de suivre des leaders, je ne sais pas, en tout cas des images fortes. Et puis, ça m'a posé quelques questions. Pourquoi Jésus, celui qu'on célèbre depuis 2000 ans, depuis si longtemps, et puis dans le monde entier, il a changé le monde, il a fait des choses extraordinaires, et pourquoi il ne suscite pas le même engouement, on n'a pas les mêmes rassemblements sur les Champs-Élysées qui à faire exploser la chose. Et puis, c'est peut-être une coïncidence, mais au même moment, on lisait dans l'évangile de Jean le récit de Jésus qui rassemble une foule d'environ 10 000 personnes. On parle de 5 000 hommes, mais j'imagine qu'il y avait aussi des femmes, donc disons 10 000 personnes. Et puis, après, il leur donne à manger avec seulement quelques pains et quelques poissons. Et à l'issue de ce meeting, ce sermon sur la montagne, Jésus, il aurait pu prendre le pouvoir. Il aurait pu recevoir les hurrahs, il aurait pu recevoir les on est les champions, il aurait pu recevoir les bannières, les chants de victoire et tout ça. Puis au lieu de ça, il va se mettre à l'écart, tout seul. Puis il demande à ses disciples de partir aussi de cet endroit, de reprendre la barque et puis de quitter les lieux. Dans l'évangile de Jean, on lit « Mais Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, il se retira de nouveau tout seul dans la montagne. » Donc il savait qu'il y avait cet effet de foule, et puis il savait que s'il restait là, dans cette ambiance, on allait proclamer Jésus comme roi, mais comme roi d'un instant. Et je crois que Jésus veut nous rassembler d'une manière différente. Depuis 2000 ans, il cherche à nous retrouver individuellement, chacun. Il souhaite que l'on reconnaisse par lui son Père, qu'on le loue et qu'on l'adore. Alors au travers des chants qu'on va chanter ce matin, je vous invite à recevoir Jésus dans votre cœur individuellement, personnellement. Renouvelez votre engagement, le suivre et l'aimer dans la compréhension de sa logique. Il y a notre logique elle est souvent comme ça. Et puis il y a la logique de Dieu, un contact personnalisé, un Dieu d'amour qui veut nous donner ce dont nous avons vraiment besoin, pas de l'éphémère, mais du durable. On va chanter quelques chants. Le premier, c'est « Au-dessus de tout, au-dessus des rois, au-dessus des puissances, Dieu veut nous rencontrer. Rien ne peut mesurer ta valeur. » Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, éprisé, rejeté, telle une rose sous le tour. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. De l'horizon. Quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les pauvres et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffées de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Comme parfum d'adoration s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand nos cœurs s'ouvrent, que les mains se tendent, pire à t'entendre, assoiffé de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand nos cœurs s'ouvrent, que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand nos cœurs s'ouvrent, que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffées de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Oui, Jésus, ton amour m'émerveille. Tu es venu me chercher. Tu m'as appelé. Tu recherches des cœurs prêts à t'accueillir. Merci Seigneur. Aide-nous à mieux te comprendre et à vivre chaque jour dans ta lumière. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné me révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, alléluia. Aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, alléluia, alléluia. quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés. Sur la croix, ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité par la vie, tu as tout changé. Et comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner, ma vie. Alléluia, alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, alléluia, alléluia. Accueillons, bien purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, bien purifier nos cœurs. Prends-nous souple devant toi. À l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur, et sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs, oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, la renouvelle en ta vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rend ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs, oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Pouvez-vous asseoir?
Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Merci David et toute l'équipe pour ce temps. Nous allons maintenant lire le texte pour aujourd'hui qui se trouve dans Genèse 28, versets 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit :
Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis.
Jacob se réveilla et se dit : C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit : Que cet endroit est redoutable ! C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu : Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Merci Jean-Daniel de venir nous apporter ce que tu as partagé. Pardon, les enfants. Alors les enfants, vous pouvez aller avec Chantal. Il y a quelque chose qui a été préparé pour vous à l'étage du dessous. Merci.
C'est à nouveau avec grande joie que je me retrouve parmi vous ce matin. C'est une fois par année. Et c'est vrai que c'est toujours un grand privilège de pouvoir être rassemblés, chrétiens de différentes communautés, pour célébrer et écouter le Seigneur. Et une fois de plus, je vous dis merci de tout cœur pour votre accueil. Claude l'a bien signalé dans son introduction. Cet été, dans les prédications, dans les messages, nous nous sommes mis en route. En route dans la lumière de la grâce. Voilà le fil conducteur des cultes de l'été. Et c'est vrai que l'été, c'est un peu le temps de l'année où souvent on se met en route pour les vacances. Certains partent très loin, en avion, en voiture, en train, que sais-je. D'autres préfèrent rejoindre les sommets voisins pour prendre un petit peu d'air frais et puis se mettre en marche sur les chemins et les sentiers. Mais ce qui est surtout vrai, c'est que notre vie, ressemble à un chemin, une marche et un sentier. Il nous faut avancer, même si nous habitons dans des maisons ou des appartements. Même si l'âge ou la santé peuvent nous ralentir, parfois même nous rendre dépendants des autres, nous ne pouvons pas rester installés et immobiles. Nous avons besoin d'élaborer des projets, de forger des plans. Nous avons besoin de voir que quelque chose bouge, que quelque chose change dans notre vie quotidienne. Et cela au fil des semaines et des mois qui passent. Car si notre vie devient à l'image d'une chaise ou d'un fauteuil, ou d'un hamac si vous préférez pour une image plus d'été, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et très vite, la routine, la lassitude et l'ennui peuvent devenir étouffants. Oui, la vie est un chemin et je crois que c'est ainsi que Dieu l'a désiré. Il importe d'être en chemin, mais on ne choisit pas toujours de l'être. C'est ce qui arrive à Jacob. Il n'a pas le choix. Il doit quitter son clan et sa famille. Il doit partir. Vous connaissez certainement son histoire. Elle est plutôt croustillante, c'est vrai. Son frère Ésaü attend la mort de son père pour pouvoir le tuer, car il ne supporte pas d'avoir été trompé par Jacob et d'avoir perdu son droit d'aînesse. C'est pourquoi Jacob s'en va loin, très loin, poussé par sa mère qui veut évidemment le protéger et de manière indirecte protéger toute la famille. Ce voyage est donc obligatoire et Rebecca espère que la colère d'Ésaü va s'apaiser au fil des ans qui passent. Non, la marche de Jacob n'est pas un voyage touristique estival. Il ne part pas pour son plaisir, il ne va pas admirer des paysages, participer à une grande compétition sportive de son temps ou aller nager dans la Méditerranée. Jacob s'en va vraiment contre son gré. En plus, il est seul. Vous imaginez le bouleversement qu'il vit ? Seul face à l'inconnu. Seul à partir à travers des régions plutôt désertiques, où les dangers sont courants en chemin. Seul. Il ne sait pas où il va, il marche vers l'inconnu, même s'il sait qu'au bout, il y a des membres de sa famille, mais il ne les connaît pas. Cela me fait penser à ces jeunes qui partent à l'étranger, par exemple, pour faire des études et qui se retrouvent du jour au lendemain dans un foyer d'étudiants ou dans une famille qu'ils ne connaissaient pas. Certains m'ont dit à quel point c'était difficile. On se dit parfois, oh non, c'est sympa d'aller à l'étranger, d'apprendre une nouvelle langue. Détrompons-nous, c'est toujours une expérience qui est difficile d'être ainsi déplacé de ses racines. Eh bien, c'était, je crois, en pire, la situation de Jacob. En plus, il ne part pas le cœur léger. Il a trompé son frère et il ne faut pas minimiser cette duperie qui a été insupportable pour Ésaü. On a souvent cherché à excuser Jacob en relevant la légèreté de son frère qui a considéré la bénédiction de Dieu comme quelque chose de superficiel. Il l'a échangé contre un plat de lentilles, vous vous rappelez. On a dit aussi que c'était la faute à Rebecca et que Jacob, ma foi, n'avait pas vraiment coupé le cordon ombilical. C'est vrai. Mais la responsabilité de Jacob est aussi engagée. Et la tromperie, le mensonge ne peuvent en aucun cas être banalisés. C'est pourquoi Jacob, dans son sac, il porte certainement une bonne dose de culpabilité. Vous savez, ce sentiment très fort qui nous divise à l'intérieur, est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'ai mal fait ? Quand même, j'ai pris la bénédiction de Dieu au sérieux, moi, et pas mon frère. Mais je me suis quand même déguisé, j'ai trompé mon père. Et quand je vois ce qui m'arrive, elle a un drôle de goût, cette bénédiction, quand même. Je dois partir, je n'ai pas le choix, je dois quitter tout ce que j'aime, et je ne sais pas trop ce qui va m'arriver. Qu'est-ce que je vais trouver au bout du chemin? Oui, le départ de Jacob n'est pas une démarche facile à vivre, bien au contraire. On pourrait dire qu'il choisit et qu'il ne choisit pas de partir. Comme nous choisissons et ne choisissons pas certains changements dans notre vie familiale, professionnelle, sentimentale, sociale ou même communautaire. Nous aussi, nous avons été amenés parfois à faire et à vivre des choix discutables. Reconnaissons-le. Nous aussi, nous avons parfois pensé bien faire en suivant le conseil pressant d'une personne proche et en lui disant après coup « Mais quelle mouche m'a piqué !» Où est-ce que je vais maintenant? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et quel regard Dieu porte-t-il sur moi, sur ce que j'ai fait, sur ce qui s'est passé et que je n'ai pas vraiment tout à fait contrôlé? Moi, je trouve que la situation de Jacob, elle fait penser à pas mal des situations que nous pouvons vivre avec nos changements au cours de l'existence. Mais dans ce départ, très inconfortable, le Seigneur va se révéler dans sa grâce et sa fidélité. Nous allons découvrir comment, mais réalisons déjà que le jeune n'est pas laissé à lui-même, avec ses questions et ses tourments. Même s'il a fait des erreurs, Dieu ne le laisse pas tomber. Il l'accompagne et il ne le lâche pas. Oui, il y a dans ce vieux récit biblique l'empreinte indélébile de la grâce de Dieu bien avant la venue de Jésus. Cette grâce, on la lit vraiment au cœur de ce récit. Alors, tout commence par un drôle d'oreiller. Après avoir beaucoup marché et être très fatigué, Jacob va se coucher. Mais là encore, quelle mouche l'a piqué ! Il prend une pierre comme oreiller. Vous faites ça, vous, quand vous faites du camping ? Aurait-il la tête dure ? En tout cas, ce choix n'a pas cessé d'intriguer les commentateurs. Cette pierre, me semble-t-il, exprime à la fois la dureté de la situation, mais elle est aussi le signe d'une solidité inattendue, d'une fidélité inébranlable. Je veux parler bien sûr de la solidité, de la fidélité de Dieu. Et cette pierre, elle est à la fois l'image de ce qui est dur pour Jacob, mais de ce qui va devenir solide pour lui et qui va le tenir. Et c'est beau de réaliser que les récits bibliques prennent au sérieux la dureté de certains changements que nous devons ou que d'autres personnes de notre entourage doivent vivre. C'est beau aussi de mesurer à quel point le Seigneur désire nous redire inlassablement la solidité de sa présence, de sa grâce et de sa fidélité. Envers et contre tout, il désire être avec nous et pour nous. Vient alors le rêve de Jacob. Vous avez remarqué, il n'est pas question de cauchemar. Il n'est pas en train de revenir en arrière dans son rêve et puis de revoir ce qui s'est passé avec tourment, ce qui nous arrive assez souvent aussi. Et puis le rêve ne le projette pas dans l'avenir, ça n'est pas un rêve prémonitoire. Non, le rêve fait entrer Jacob dans une nouvelle dimension. Une dimension verticale, naturellement, avec cette échelle qui ne ressemble pas dans le langage biblique à celle que nous posons contre nos arbres fruitiers. Il ne s'agit pas d'un objet instable, mais il s'agit d'un escalier, on devrait même dire d'une rampe, quelque chose de solide, une belle avenue qui monte vers le ciel. Bon, bien sûr, il y a de la pente, hein. C'est plus que du 15% pour les coureurs cyclistes du Tour de France. Mais c'est vraiment un chemin solide. Remarquons une chose importante, c'est qu'on ne commande pas un rêve. Vous avez déjà essayé de demander un rêve? Jacob n'a rien demandé ou programmé. Il reçoit quelque chose pendant son sommeil. Il dort vraiment, même si la pierre est dure. Et je reçois ce rêve comme une promesse. Dans la dureté de certaines circonstances de nos vies, de certains changements et de certains départs, nous pouvons vivre malgré nous des expériences où la grâce de Dieu se manifeste. Elle ne dépend pas de ce que nous sommes, de ce que nous avons demandé, même dans la prière. La grâce est un cadeau. Elle est gratuité. Et les regards bienveillants du Seigneur sur nous, nous n'y sommes pour rien. Je répète cette phrase, nous n'y sommes pour rien. Alors, essayons ce matin, intérieurement, de nous rappeler d'un ou de plusieurs signes de cette grâce de Dieu qui est venue gratuitement sur notre chemin. Je vous donne quelques exemples pour vous aider peut-être. Une personne qui nous a marqués par sa bienveillance en nous disant quelque chose d'important ou en nous laissant un geste important. Une expérience vécue à l'occasion d'une retraite spirituelle, d'une lecture, d'un moment fort vécu en communauté. La naissance d'un enfant. Une visite reçue à l'hôpital lorsque nous étions gravement atteints dans notre santé. Peut-être même un jour un rêve apaisant. Il me semble que nous pouvons lire dans nos vies des événements comme ça, gratuits, où on se dit, je n'y étais pour rien du tout, mais Dieu était là, pour moi. Alors vous l'aviez découvert, Jacob, lorsqu'il vit cette expérience, après il se réveille, et puis il est pris un peu de tremblement. On peut se demander pourquoi. C'est qu'à cette époque, et c'est marqué plusieurs fois dans le livre de la Genèse, voir Dieu, c'est mourir. Et il a vu Dieu dans son rêve. Il a réalisé qu'il était toujours là, bien vivant, après son rêve. Jacob a découvert quelque chose d'important, c'est que Dieu se rend proche de l'être humain, mais de l'être humain tel qu'il est vraiment. Sans masque, sans faux-semblant. Il nous reçoit tel que nous sommes. Et là encore, il y a quelque chose de très fort dans ce texte, le pardon. Jacob n'est pas un homme tout blanc, bien au contraire, je l'ai déjà dit. Et pourtant, il a pu voir Dieu. Et c'est pour nous une manière de dire, même si nos vies ne sont pas toujours très nettes et très transparentes, la relation avec Dieu est possible sans crainte et sans tremblement. C'est là un des messages du récit de ce jour. D'ailleurs, avons-nous été attentifs à certains détails du rêve? Il ne voit pas seulement des anges monter, ce qui pourrait exprimer la quête de l'homme, sa recherche spirituelle et sa prière. Il ne voit pas seulement des anges descendre, ce qui évoquerait la grâce divine, sa parole, adressé aux hommes, sa bénédiction. Mais il voit dans son rêve des anges monter et descendre. Deux collègues pasteurs, Daphné Raymond et Michel Cornu, ont parlé ainsi du rêve de Jacob, et j'aimerais vous laisser leurs paroles qui m'ont touché. Les anges montent, ils prennent ma solitude et mes peurs, et ils vont les porter devant Dieu. Les anges descendent, ils m'apportent le message d'amour et de miséricorde de Dieu. Les anges montent, ils prennent mes attentes, mes joies et mes espoirs et les portent devant Dieu. Les anges descendent, ils m'apportent la bénédiction et les promesses de Dieu. C'est quand même magnifique. Mais voilà, on arrive bientôt au bout du récit. Et puis c'est là que les choses semblent se gâter un petit peu. Au risque de vous surprendre, il y a quand même à la fin de ce texte des choses qui sont un peu dérangeantes, n'est-ce pas? D'abord, je suis questionné par ce que Jacob va dire après son rêve. Vraiment, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. Jacob avait déjà eu l'occasion d'entendre parler de Dieu dans son enfance et sa jeunesse. Ses parents, je pense, Abraham et Sarah, pardon, je me trompe, c'est Isaac et Rebecca, pas que je dise de bêtises, attention, lui avaient certainement parlé de Dieu et fait découvrir l'étendue de sa fidélité. Mais ce rêve est pour lui une révélation. On peut parler de conversion. D'un moment important où le jeune homme vit une rencontre décisive avec Dieu. Cependant, il y a quand même quelque chose de troublant dans son témoignage. Il donne une grande importance au lieu même où s'est passée cette révélation. Ce qui amenait Thierry à poser cette question quand on s'est rencontrés jeudi, mais est-ce qu'on doit donner de l'importance à certains lieux qui deviendraient des lieux sacrés? Question difficile mais importante. La présence de Dieu pourrait-elle être liée à des endroits particuliers? Nous savons d'ailleurs que les Hébreux ont donné de l'importance à certains sanctuaires. Et le lieu où Jacob a vécu ce rêve est devenu Bethel, ce qui veut dire la maison de Dieu. Mais d'un autre côté, remarquons que Dieu n'a rien demandé à Jacob. C'est Jacob qui décide de baptiser ce lieu ainsi. Mais nulle part il n'est écrit que Dieu a dit à Jacob « Mon vieux, cet endroit est sacré ». De plus, ce qui me frappe toujours dans les premiers livres de la Bible, c'est que le domicile choisi par Dieu, c'est quoi? C'est une tente, la tente de la rencontre. Ça n'est pas une maison, c'est un lieu qui est toujours en mouvement. Et puis, quand Jésus rendra son dernier soupir, son dernier souffle, le rideau du temple va se déchirer. Une manière de dire, c'est la fin des lieux sacrés. Dieu quitte le temple, et désormais, ce qui est sacré, c'est le cœur de chaque être humain. Mais tout cela nous montre une chose importante. C'est que Jacob, qui vient de se convertir, eh bien, est toujours en chemin. Il a vécu une révélation magnifique, mais il a encore tellement de choses à découvrir et à apprendre. Et probablement qu'en voulant instaurer un lieu sacré, il est à la fois dans le vrai et dans le faux. Enfin, c'est mon interprétation. Et qu'il aura encore des choses à apprendre. De la même manière, dans son petit dialogue à la fin du récit avec Dieu, Dieu vient de lui dire sa bénédiction, comme quelque chose d'intangible. C'est quoi la réponse de Jacob ? Seigneur, si tu me gardes sur mon chemin, alors je ferai ceci ou je ferai cela. C'est du marchandage. C'est vraiment un marchandage qui est presque choquant. Mais moi, ce qui me touche, c'est qu'il n'y a pas de reproche de Dieu. Dieu ne répond pas à Jacob. Il ne lui dit pas, mon vieux, écoute, tu es complètement à côté de la plaque, je viens te promettre quelque chose et puis tu recommences à marchander. Non, Dieu va continuer à accompagner Jacob, à cheminer avec lui. Jacob va vivre d'autres expériences difficiles avec Laban plus tard. Et puis surtout, ce dernier épisode tellement marquant, le combat de Jacob avec Dieu lui-même, quelques chapitres plus loin. Nous réalisons ainsi pour nous-mêmes aujourd'hui que la conversion, notre conversion, c'est toujours une étape. Jamais nous ne pouvons croire que nous sommes arrivés. Nous restons en chemin sur la foi, sur le chemin de la foi, pardon. Et nous sommes en chemin avec Jésus lui-même qui a dit « Je suis le chemin ». Nous pouvons à certains moments de notre vie vivre des révélations importantes et juste après être quelque peu à côté de la plaque de nos paroles ou notre attitude, comme ce fut le cas avec Jacob. Dieu ne viendra pas forcément nous faire des reproches, mais c'est celui qui va nous aider à aller plus loin, à nous dire « j'ai encore quelque chose à découvrir, j'ai encore besoin de me mettre à l'écoute du Dieu vivant pour ne pas être arrêté, installé, mais vraiment en chemin avec lui. » Alors, chers frères et sœurs, puissions-nous, à l'écoute de ce récit aujourd'hui, être en marche dans notre vie intérieure, nous laisser visiter et toucher par la lumière et par la grâce du Seigneur qui n'a jamais cessé de nous faire découvrir de nouvelles choses importantes. D'ailleurs, ce sera mon mot de conclusion. L'Esprit Saint dans la Bible, c'est le même mot que le vent. Pour dire que le vent, c'est ce qui fait gonfler les voiles et qui met en mouvement. Puissions-nous donc être en marche avec le Seigneur. Amen. Et nous vous invitons à l'écoute d'un morceau de musique à continuer ce moment de méditation en silence.
Nous entrons maintenant dans le temps de la Sainte Cène. Dans la nuit où le Seigneur Jésus fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous rappelez la mort du Seigneur. Jusqu'à ce qu'ils viennent.
Nous vous invitons à la prière. Quel privilège, Seigneur, de recevoir ce matin les signes de ta grâce et de ta fidélité, dans le pain et le vin partagés. Merci parce que tu es vraiment un Dieu en route avec nous, qui connaît nos difficultés de vie, de changement. Merci parce que tu acceptes aussi, tu accueilles et tu pardonnes nos erreurs, nos illusions, toutes ces circonstances où nous nous sommes trompés et où parfois nous avons trompé les autres. Merci parce que tu viens ce matin à nouveau nous rappeler ta grâce et ta fidélité, ta bienveillance et ton pardon. Permets-nous, Seigneur, d'accueillir ces signes de ta vie avec reconnaissance et de nous laisser visiter par ton esprit au plus profond de nous-mêmes. C'est ce que nous te demandons en ton nom, Jésus-Christ. Amen.
Deux, trois indications pratiques pour ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois. Au centre des plateaux, vous aurez du jus de raisin et puis dans les bords, vous avez du vin. Et puis pour ceux qui le désirent, nous avons aussi une coupe. Il faut simplement lever la main si vous désirez partager ce repas avec la coupe. Et puis est-ce que je pourrais demander encore à trois volontaires de venir nous assister pour la distribution? Merci beaucoup.
Dieu, quel amour pour moi, quelle patience tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir, un si grand miracle, un don si... Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le suivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu.
Voilà, nous allons maintenant prendre une offrande. Si vous êtes ici pour la première fois, peut-être en visite, sachez que ce moment est un moment de liberté, donc sentez-vous libre dans votre générosité. Merci à tous pour votre générosité. Merci Seigneur pour cette offrande. Merci de la multiplier, merci de bénir aussi ceux qui choisissent comment est-ce qu'elle est utilisée. Seigneur, par cette offrande, nous te disons aussi que tu es celui qui pourvoit tous nos besoins et nous choisissons de te remettre un peu de nos biens pour te dire que nous te faisons confiance. Merci pour ta fidélité en toutes choses, dans nos vies personnelles, nos vies de famille, mais aussi pour cette Église et nos communautés, Seigneur. Amen. Voilà, c'est déjà le temps des annonces. Il y en a moins que d'habitude vu que c'est l'été, mais il y en a quand même quelques-unes. Merci Claude de venir faire ton annonce.
Je n'ai pas d'annonce particulière pour la vie de paroisse, c'est l'été. Par contre, dimanche prochain, le culte aura lieu au Centre œcuménique à Meyrin. Et c'est Sylvain Dupertuis qui nous apportera la prédication. Merci.
Merci. Et puis, pour notre communauté ici, j'ai trois annonces. La première, c'est que mercredi, donc ce mercredi, il y aura, comme il y a eu plusieurs fois, des grillades. Grillades qui seront précédées d'une petite célébration, d'une courte célébration. Donc, je n'étais pas sûr si c'est les grillades qui commencent à 19h ou la célébration.
La célébration commence à 19h, suivie par les grillades.
D'accord. Donc, voilà. Venez pour 19h. Il y a cette célébration et puis ensuite, il y a le temps de grillades. Et vous êtes tous les bienvenus. Vous pouvez même venir avec des amis. Hein. Je pense que, ouais. C'était bon temps pour ça. Ensuite, n'oubliez pas de vous inscrire aussi pour la fête d'installation de Philippe Anchaud. Peut-être que vous avez déjà reçu un email par rapport à cela, mais il y a aussi la possibilité de vous inscrire sur le panneau d'affichage à la sortie. Donc voilà, n'oubliez pas de vous inscrire, il y aura un repas. C'est pour ça qu'on vous demande de vous inscrire pour que ça soit bien organisé. Et oui, merci de rappeler que c'est le 26 juillet. Août. J'ai marqué juillet, voilà, c'est pour ça que je me suis trompé. C'est bien d'être à plusieurs, hein. Donc voilà, sur le panneau d'affichage. Et puis, encore une dernière annonce. À la fin de ce culte, tout de suite après, Werner et son épouse ont demandé qu'on puisse prier pour eux. Vous savez certainement qu'ils vivent différents défis au niveau de sa santé. C'est pas évident et on veut les entourer aussi dans la prière. Alors voilà, si vous le désirez, venez vous joindre à ceux qui prieront pour eux juste après le culte, ici devant ou par là. D'accord, très bien, merci beaucoup. Voilà, je vais encore lire un texte, Colossiens 3, 1 à 2. C'est l'habitude de se lever pour cela, alors levons-nous. C'est un texte, je ne sais pas si c'est la bénédiction, mais en tout cas c'est un texte d'envoi. Je vous envoie dans cette semaine avec ce texte. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors voilà, dans votre marche, dans votre chemin avec Dieu, attachez-vous aux choses célestes, aux choses éternelles, attachez-vous à Dieu. Soyez bénis et bonne semaine.